C'est pourquoi aussi ce message est très important.
Par exemple, nous discutions à table avec un ou deux enfants cette semaine et on parlait de Joseph, puisque les enfants ont un club d'enfants sur Joseph, ou un des groupes. Et j'ai posé la devinette parce qu'un des enfants me disait qu'il connaissait toute l'histoire de Joseph. Alors je lui dis, bon, tu connais toute l'histoire de Joseph. Alors, il a eu deux gosses, Joseph, hein, deux garçons. Comment est-ce qu'ils se sont appelés? Alors, on a dû travailler et bûcher ensemble, hein, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces deux enfants s'appelaient Éphraïm et Manassé. Éphraïm et Manassé. Alors, dans la Bible, qui est l'aîné? Qui est le premier-né? Il y a un premier-né et il y a un second. Le premier-né, dans le texte de Genèse 41, versets 51-52, vous le remarquerez, le premier-né s'appelle Manassé. Et le second, qui est venu après, donc, s'appelle Éphraïm. Or, il se trouve que dans Jérémie 31, verset 9, ce n'est pas Manassé qui est appelé le premier-né, mais c'est Éphraïm. C'est Éphraïm. Tout simplement parce qu'Éphraïm, qui, dans certains textes, évoque le royaume d'Israël tout entier, et dans d'autres, simplement la partie nord, les 10 tribus du nord, Éphraïm était une tribu principale, et quand on disait Éphraïm, on avait dit tout Israël. C'était la représentation de l'ensemble des tribus. Et en cela, Éphraïm, aux yeux de Dieu, était le premier-né, c'est-à-dire qu'il avait en quelque sorte la première place. Ce qu'on appelle aussi la prééminence. David. Dans la grande famille d'Isaïe à Bethléem, il était le numéro combien? Alors, c'est bien, c'est comme le tiercé. Hein? Dans certains textes, il est le numéro 7, dans d'autres, il est numéro 8. On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il était le dernier. Ah oui! Alors c'est intéressant, c'est qu'il était de dernier, pourtant, il est dit dans le psaume 89, verset 28, au sujet de David, « Je ferai de lui le premier-né. » Et le texte ajoute « le plus élevé des rois de la terre », c'est-à-dire que David annonçait qui? David annonçait le fils de David, et le seigneur de David, c'est-à-dire Jésus. David est un type de Jésus-Christ. Et quand il est dit dans ce texte, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, eh bien on a l'explication, premier-né égale le plus élevé des rois de la terre. Le peuple d'Israël, en tant que tel, a été appelé le premier-né de Dieu. Exode 82. Non pas parce qu'il était le chouchou de Dieu, non pas parce qu'il était le premier peuple que Dieu a créé, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais parce que le peuple d'Israël était choisi spécialement par Dieu pour être le canal de la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu, de la parole de Dieu pour les nations tout entières. Et c'est aux Juifs, à ce peuple premier-né de Dieu, que Dieu a confié ses oracles, et c'est au sein de ce peuple que le Fils de Dieu, que Jésus-Christ, est né. Et c'est pour cela que ce peuple, dans le plan de Dieu, a beaucoup d'importance. Et c'est dans ce sens qu'il est le premier-né de Dieu. Alors je suis heureux, et je ne voulais pas m'arrêter avant d'en être là. Je suis heureux de terminer ce message par cette pensée tellement, tellement importante. C'est le dernier chant que nous avons chanté tout à l'heure. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous réalisons ce que nous avons chanté tout à l'heure? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ne doit pas être seulement proéminent. Vous savez ce que c'est qu'un ventre proéminent? Jésus-Christ ne doit pas avoir une certaine place visible dans notre vie. Jésus-Christ doit être prééminent. C'est-à-dire qu'il doit avoir la toute première place dans ma vie. Parce qu'il est le premier en dignité, en excellence, en distinction. Il a la primauté sur toute la création. Il existe avant toute chose. Il était aux côtés du Père avec le Saint-Esprit au moment de la création du cosmos, et nous ne savons pas ce qui s'est même passé avant, dans l'éternité plus lointaine encore du passé. Et c'est à cause de cela, et aussi comme nous le verrons demain matin, à cause de cette descente sur la terre, de cette incarnation, et de la mort sur la croix et de la résurrection, que Jésus-Christ veut être Seigneur de ma vie. Seigneur. C'est sûr que quand on utilise le terme Seigneur aujourd'hui, ça évoque le temps des serfs, n'est-ce pas, et des seigneurs. Ça sonne étrange. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, et à l'époque des seigneurs, cela voulait dire autre chose. Vous savez qu'il y avait quantité de gens qu'on appelait seigneurs. Curioi. C'était les maîtres qui avaient des esclaves. Mais on prenait soin, quand on écrivait alors, de mettre une minuscule en première lettre du mot seigneur. Mais chaque fois qu'il était question du seul Seigneur pour les païens, et dans l'Empire romain, le seul Seigneur qui était divinisé, à partir d'une certaine époque, s'appelait l'empereur, César, alors là, dans tout courrier, on mettait une majuscule. Et cela voulait dire beaucoup de choses, parce que lorsque, par exemple, dans les rues de Rome, les soldats ou les fonctionnaires de cette grande cité de 4 millions d'habitants à l'époque de Jésus, quand ils se croisaient dans les rues, vous savez comment ils se saluaient? Un fonctionnaire disait à l'autre « César est Seigneur !» Et l'autre se tournait vers lui et continuant son chemin lui répondait « Oui, le Seigneur c'est César !» Et puis le jour où l'un de ces fonctionnaires ou l'un de ces soldats se convertissait par le biais du ministère de Paul ou de l'église de Jésus-Christ à Rome, et que le lendemain il passait dans les rues de la cité avec sa patrouille, ou allant, dirions-nous aujourd'hui, à son bureau, alors qu'il venait de vivre la nuit la plus lumineuse de sa vie en rencontrant Jésus-Christ, quand il était interpellé, quand on lui disait « Le Seigneur, c'est César » et qu'on s'attendait à ce qu'il réponde, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, s'il était véritablement régénéré, il répondait non, non. Pour moi, c'est le Christ. Maintenant qui est Seigneur. Et combien ont payé de leur vie simplement le fait d'avoir déclaré dans les rues de Rome et des autres provinces de l'Empire romain que désormais ce n'était plus César qui était leur Dieu et leur Seigneur, mais que c'était le Christ, le Seigneur Jésus, celui dont ils suivaient la voie. Comme pendant la guerre. Heil Hitler ou Heil Jésus. Un certain nombre sont morts dans les camps de concentration parce qu'ils n'ont pas voulu souligner et accepter que le salut du monde et l'instauration d'un nouveau millénium pouvaient être le fruit du travail d'Hitler. Et vous savez, dans la décadence de l'Empire romain, dans les moindres petits villages à une certaine époque de la décadence, l'empereur qui était jaloux de sa divinité et qui se sentait de plus en plus trahi envoyait des émissaires qui parcouraient les villages et qui arrivaient en trompe sur la rue principale, là au cœur du village, qui dressaient un autel avec des vasques et qui ont convoqué toute la population qui était obligée de venir là au centre du village, tous les gens qui se connaissaient, et chacun s'approchait. Ils venaient devant l'autel et il devait jeter une poignée d'encens dans la vasque d'où s'élevait la flamme et dire « César est le Seigneur ». Et de cette manière, l'empereur pouvait s'assurer de la loyauté de ses sujets. Et malheur à celui qui osait publiquement et devant l'autel dire « Non, pour moi c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur ». Est-ce que véritablement Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie? Savez-vous combien de fois Jésus lui-même porte le titre de sauveur? Jésus signifie sauveur. Mais il existe aussi dans le Nouveau Testament le titre de sauveur. Jésus, sauveur de tous les hommes, etc. N'est-ce pas? Le titre de sauveur ne figure que 16 fois dans tout le Nouveau Testament. Savez-vous combien de fois Jésus est appelé du titre de Seigneur? Plus de 470 fois. Dont 105 fois dans le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, le chapitre le plus dense utilisant le terme Seigneur, savez-vous lequel c'est? C'est Acte 9. La conversion de Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse, quand il s'est converti à Jésus-Christ, qu'il a reconnu comme le Seigneur, l'a aussitôt reconnu Seigneur dans toute sa vie. Aussi clair que cela. Alors il a tout de suite cherché une église. Il s'est tout de suite mis à témoigner. Il a tout de suite changé de vie. Il a commencé à marcher dans la sainteté. Il a renié son passé et il a adoré ce qu'il n'adorait pas jusque-là. Jésus-Christ, Seigneur de notre temps. Jésus-Christ, Seigneur de notre alimentation. Jésus-Christ, Seigneur de notre sommeil. Jésus-Christ, Seigneur de ce camp de famille. Jésus-Christ, Seigneur de nos relations les uns avec les autres. Jésus-Christ, Seigneur de nos loisirs. Jésus-Christ, Seigneur de nos achats. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ça, c'est un des grands messages pratiques de l'Épître aux Colossiens. Et si nous proclamons des lèvres que Jésus-Christ est Seigneur, nous devons aussi le confesser par nos actes, dans notre vie de tous les jours. Et nous humilier si le Seigneur nous reprend dans ce domaine aujourd'hui. Il est le Dieu de grâce, tout en étant le Seigneur de gloire, et il ne refuse pas l'humiliation de celui qui vient à lui. Nous voulons simplement terminer dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous avons chanté Jésus-Christ est Seigneur, mais nous ne voulons pas que notre confession soit celle des lèvres simplement. Nous voulons que ce soit celle du cœur tout entier et que dans notre vie quotidienne pratique, tu sois véritablement le Seigneur, le souverain, que tu es la prééminence, la première place dans nos activités, à commencer par nos pensées, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos loisirs, dans nos soirées comme dans nos journées, dans nos moments de repas. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à être conséquents avec ce que nous proclamons. Merci, merci pour cette réponse inspirée de toi par l'apôtre Paul au faux docteur. Merci de ce que Jésus-Christ ne soit pas un des barreaux de l'échelle, qu'il ne soit pas une créature parmi d'autres issues de toi. Merci pour la plénitude absolue qui est dans le Fils de Dieu. Merci parce que son salut est absolument parfait à cause de cela. Gloire te soit rendue. Oh, réjouis nos cœurs, Seigneur. Donne-nous une sainte allégresse intérieure. Visite-nous et bénis pour nous la suite de cette journée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Reprenons la lecture de Colossiens 2 à partir du verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8 et suivant. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà comment nous envisageons donc nos trois dernières journées pleines ensemble au niveau de l'enseignement. Nous allons terminer ce matin cette question des philosophies trompeuses en accélérant légèrement si cela était nécessaire, pour consacrer les deux études prévues demain, donc, à la question du légalisme et de l'ascétisme. En développant normalement le matin le problème du légalisme en lui-même, qu'est-ce que c'est que le légalisme? Comment est-ce qu'il se traduit? Quel problème il pose? Et en évoquant demain en fin d'après-midi le problème de la loi de Dieu, c'est-à-dire pourquoi la loi de Dieu a-t-elle été donnée et quel doit être le rapport du croyant avec la loi? C'est un grand problème, une grande question dont la Bible parle beaucoup. Et puis notre journée de mercredi avec ces deux études sera consacrée au dernier pan, à savoir l'extrémisme doctrinal, l'illuminisme, ce qu'on peut appeler à la rigueur le faux mysticisme, puisqu'il en existe un vrai qui n'est pas interdit. Toutes ces questions de vision, etc., d'expérience, où nous procéderons un peu de la même manière. Voilà, donc comment nous allons avancer en essayant donc d'accélérer aussi un petit peu. Nous avons considéré hier matin dans notre réflexion tout d'abord le problème colossien sur un plan général, cette philosophie religieuse que nous avons appelée le prégnosticisme ou une forme de prégnosticisme, en attendant le gnosticisme qui lui a fait des ravages. Et je vous signale qu'on considère que le Nouvel Âge, il est appelé, ainsi je l'ai moi-même entendu, il est appelé un néo-gnosticisme, c'est-à-dire qu'il y a bien des ressemblances assez frappantes entre le gnosticisme des 2e et 3e siècles et le Nouvel Âge aujourd'hui. Il y a aussi des distinctions évidentes. Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, nous n'en finirions pas. Mais il y a des ressemblances très frappantes entre les deux, et certains vont même jusqu'à dire, et j'entendais une cassette à ce sujet, il y a 2-3 jours à peine, dans laquelle l'orateur disait que l'on faisait remonter en réalité ce système de plus en plus élaboré et inquiétant du Nouvel Âge, précisément notamment à ce gnosticisme des 2e et 3e siècles. En réalité, je pense qu'il remonte encore plus loin. Donc nous avons considéré cela dans un premier temps, hier matin, et puis nous avons commencé à analyser cette philosophie religieuse, ce système élaboré par la pensée humaine, et voir les réponses de Paul. Nous avions remarqué que Paul reprenait dans son enseignement des mots clés utilisés par les faux docteurs et qu'il donnait à ces mots clés un autre contenu. Vous vous souvenez que nous avons vu le mot plérôme. Vous avez le tableau qui l'indique, le pléroma, le terme grec, qui correspond au mot français plénitude. Nous avons remarqué que dans ce prégnosticisme et cette tendance des faux docteurs, le plérôme était une sorte d'abîme, de lumière divine, une divinité tout à fait impersonnelle, quelque chose d'assez insaisissable, et surtout qui ne voulait absolument pas avoir quoi que ce soit à faire avec la terre matérielle, mauvaise, parce que matière d'ailleurs. Un Dieu inaccessible, insaisissable, et entre lui et les hommes enfermés dans la prison matérielle de leur corps, des intermédiaires, cette échelle qui va beaucoup nous intéresser ce matin. Nous nous étions attachés à souligner que Christ n'est pas un des barreaux de l'échelle qui mène au plérôme, comme le disaient les faux docteurs, mais il est le plérôme lui-même. Il est le Dieu absolu, créateur des univers, et nous avons donc développé Colossiens 1, 16, essentiellement le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors si quelqu'un avait quoi que ce soit comme trouble encore au sujet de ce que nous avons soulevé hier et essayé d'expliquer, surtout ne manquez pas de venir vers moi ou vers quelqu'un qui est habilité pour cela, afin que nous puissions vous aider. Mais vous vous souvenez qu'on avait vu que le terme premier-né n'était pas seulement accessible au sens littéral, mais aussi à un sens figuré. Il signifiait le premier en dignité, le premier en excellence. Nous avons parlé de primauté, de prééminence. Jésus-Christ est avant toute chose, il domine sur toute chose, nous allons d'ailleurs encore le souligner fortement ce matin. Maintenant, nous voulons prendre une série de mots qui revient à plusieurs reprises dans cet épître. Tout d'abord au chapitre 1er, verset 16, « En lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Cette série est partiellement reprise au chapitre 2 et au verset 10. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et nous l'avons encore vu au verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. » Vous avez également au verset 18 la mention du culte des anges. Il se trouve que ces personnages du monde invisible faisait partie intégrante de ce système de philosophie religieuse. Il y avait là donc toute une hiérarchie d'êtres spirituels, de médiateurs, entre ce pléroma, cette espèce de Dieu tout à fait particulier, assez insaisissable, et les hommes. Je ne vais pas entrer maintenant dans une explication fouillée sur les anges. Ce culte des anges. Simplement indiquer que, notamment dans le judaïsme du 1er siècle, le rôle de médiation des anges était fortement souligné en rapport avec la promulgation de la loi. La Bible dit en effet à deux ou trois reprises que lorsque Dieu a communiqué les 10 commandements et les autres lois au peuple d'Israël par Moïse, sur le Sinaï, les anges sont intervenus. Ils ont été des intermédiaires. On ne sait pas exactement dans le détail comment cela s'est passé. La Bible est très sobre, il y a très peu à ce sujet. Mais toujours est-il qu'il y a eu une intervention, une médiation des anges dans cette transmission de la loi. Et à cause de cela, on a brodé. Alors nous y reviendrons lorsque nous évoquerons ensemble l'extrémisme doctrinal. Nous verrons le mécanisme de l'extrémisme doctrinal tel qu'il s'est produit depuis le début de l'ère chrétienne et tel qu'il se produit facilement dans nos vies à l'heure actuelle. Alors il y avait toutes sortes d'exagérations à ce sujet. Vous avez aussi, je le précise, au verset 8 du chapitre 2, cette expression en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Et cette expression revient d'ailleurs au verset 20 du chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde. Principes élémentaires. C'est d'ailleurs dans le texte grec un seul mot qui a été rendu par ces deux mots. Mais si vous preniez certaines autres versions, y compris d'ailleurs en langues étrangères, en anglais par exemple, dans certaines versions, il a été traduit différemment. Tout simplement parce que le terme grec a toute une série de sens. Toute une série de sens. Littéralement, le premier sens du terme, Principes élémentaires, en grec, stoikeia, c'est un terme tout à fait particulier, ce sont des objets qui forment une série, ou qui sont disposés en rang. Par exemple, A, B, C, D, E, F, l'alphabet, ce sont les stoikeia, voyez ? Ou encore, les notions élémentaires, les principes de base, les rudiments d'un catéchisme, ce sont les stoikeia. Ou encore, les grands éléments qui composent ce monde, la terre, le feu, l'air et l'eau, ce sont les éléments, ce sont les stoikeia. Alors certains, dans les traductions, se sont arrêtés là, en traduisant simplement par principes élémentaires. Et c'est vrai que c'est le terme qui englobe un peu tous les autres. On peut mettre dans ce sac beaucoup de pensées qui appartiennent aux différentes significations de ce terme en grec. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même terme était utilisé dans la pensée religieuse et philosophique grecque pour parler des puissances spirituelles, invisibles, qui contrôlent l'univers. C'est-à-dire pour tout ce monde, des démons dans le paganisme. Et un monde qui faisait froid dans le dos. C'était utilisé aussi pour parler notamment des signes du zodiaque. C'est intéressant. Les signes du zodiaque, donc en astrologie, ce terme était utilisé pour parler des signes du zodiaque. Et il faut savoir que dans l'astrologie, normalement, chez les Grecs, chez les Égyptiens, déjà avant chez les Chaldéens, les astres étaient divinisés. Ceci est d'une importance absolument capitale, et c'est à cause de cette divinisation des astres que ces astres avaient un rôle à jouer et qu'ils influençaient le cours de la vie de l'homme qui était né sous certains signes. Alors, ce qui permet de traduire ce terme aussi par le mot esprit. Et dans certaines versions, vous avez à la place du mot principes élémentaires le mot esprit. Parce que ça colle d'une manière assez pointu, si vous voulez, avec le gnosticisme, où ce monde des esprits était très très important. On peut le traduire par l'expression « les éléments cosmiques » également. Alors, il faut savoir, je l'ai déjà dit hier, que donc dans ces intermédiaires, il y avait toute cette liste que nous avons lue, plus ces éléments cosmiques, plus les anges, chaque tendance, donc le judaïsme a offert le culte des anges, les Grecs ont offert et les Égyptiens l'aspect astrologie, chacun a donné son petit apport dans ce système, hein, et c'est ce qui forme cette espèce de salmigondi. Et puis Christ fait donc partie de ces médiateurs, un petit peu considéré, si vous voulez, comme un maître. Aujourd'hui, par exemple, les ashrams, un certain nombre de maîtres de l'hindouisme évoquent Jésus comme un maître. On peut dire que c'est l'équivalent de ce qui se passait à cette époque. Christ fait partie de ces médiateurs. J'ajoute au passage qu'il n'est jamais venu dans un corps, disent les gnostiques, tout simplement parce que la matière est mauvaise. Alors, il n'est pas du tout considéré. Il est dangereux de considérer cette question de matière quand on évoque la personne de Christ. Alors, on entre là dans toutes sortes de considérations et de spéculations. Par exemple, le Christ est un esprit qui est descendu sur un personnage homme qui s'appelle Jésus. Et il est descendu sur ce Jésus au moment où Jésus a été baptisé et où le ciel s'est ouvert. Mais, juste avant la croix, certainement dans le jardin de Gethsémané, ce Christ est reparti, parce qu'il n'était pas question que ce Christ invisible, ce révélateur, puisse mourir dans un corps, enfermé dans un corps sur la croix. Et cela a donné naissance à un courant très fort, qui s'est appelé le docétisme, de dokeo, qui en grec veut dire « sembler, paraître ». C'est-à-dire que le corps n'était qu'une apparence en réalité. Et l'apôtre Jean a dû vraiment s'attaquer à ce problème, parce que dans l'Asie mineure, à la fin du 1er siècle, il y avait un tas de gens qui essayaient, en tant que faux docteurs, d'influencer les chrétiens dans ce domaine. Et c'est pour cela que vous verrez, notamment dans la première épître de Jean, une forte insistance de la part de l'apôtre Jean sur le fait que Jésus-Christ, on ne dissocie pas les deux, voyez, est venu dans un corps. Appartient à l'esprit de l'Antichrist toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu dans un corps. Vous lirez toute la première épître de Jean et vous verrez le nombre de mentions. Et ça, c'était la réponse du Seigneur à toute cette déviation que l'on retrouve une fois de plus aujourd'hui dans certains mouvements. Mais je ne veux pas aller plus loin dans ce domaine, ce serait trop compliqué. Alors, ce que je veux surtout souligner, c'est que les hommes, donc, étaient invités à s'approcher de ces êtres spirituels intermédiaires pour pouvoir s'élever peu à peu jusqu'à Dieu et être délivrés de la domination des démons, par exemple, qu'ils craignaient. Et un jour, ils entreraient en fusion avec cet abîme de lumière divine et ils seraient délivrés de l'emprise de la matière et de l'ignorance. Voilà ce que l'on essayait d'introduire comme enseignement dans l'église de Colosse. Quelle est la réponse de Paul ? Colossiens 1, 16, 17. On relit ce texte, on y revient, et puis on voit comment l'apôtre Paul répond. « Car en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » C'est-à-dire qu'il est, le Dieu créateur, il est le Dieu créateur d'absolument tout, dans le sens le plus complet de ce tout, c'est-à-dire y compris ses puissances, cette liste de puissances. Bien entendu, à l'origine, il n'y avait aucune puissance invisible qui n'allait à l'encontre de Dieu. Il fut un temps où, dans l'histoire du cosmos, les démons n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des anges et toute une hiérarchie céleste d'êtres invisibles, mais qui vivaient clairement du côté de leur créateur. Bon, ensuite, certains ont mal tourné, et là, la Bible est extrêmement sobre, et nous ne devons pas spéculer, mais Jésus-Christ est le créateur de tout le monde invisible. De tout le monde invisible. Il n'a pas créé Satan en tant que Satan, mais même Satan est une créature de Dieu. Mais bien entendu, Satan est devenu ensuite ce qu'il est devenu. Et cela signifie aussi que toutes ces puissances invisibles, dont un certain nombre ont mal tourné, restent sous le contrôle absolu de Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Et cela veut dire que non seulement toutes ces puissances, tout ce monde invisible a été créé par Jésus-Christ, mais qu'il contrôle leur activité. Et donc que même le diable ne fait pas ce qu'il veut. Et que même le diable, dans l'accomplissement de ses desseins, qu'il en ait envie ou non, travaille finalement pour Christ. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr que nous sommes bouleversés par le péché et nous avons été marqués par le péché. Et là, nous entendons chaque matin le message absolument extraordinaire de la croix. C'est vrai. Mais nous serions tentés de penser que il y a toutes sortes de choses qui échappent au contrôle de Dieu, qui échappe au contrôle de Christ, et que le diable fait un peu ce qu'il veut. Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que lorsque tout ce qui se passe sur la terre sera fini, lorsqu'il y aura le règlement de compte final, toutes les créatures, visibles et invisibles, rassemblées dans la présence de Dieu le Père et de Christ son Fils, Dieu lui-même, venu en chair au milieu des hommes, toute créature reconnaîtra cette souveraineté. Et ne la reconnaîtra pas parce que Dieu va l'y forcer, parce que il va mettre le pied sur leur cou en disant « Maintenant, vous êtes obligés, vous pouvez le faire éventuellement en grinçant des dents et en vous rebellant. » Non, on reconnaîtra clairement, je dirais jusqu'à un certain point librement, chacun reconnaîtra l'évidence de la souveraineté et de la seigneurie absolue de Jésus-Christ. Ça, c'est un des enseignements les plus extraordinaires. Et pour bien insister sur cet enseignement, l'apôtre Paul va d'ailleurs faire quelque chose de très particulier, c'est qu'il va citer cette hiérarchie de personnages de l'invisible, il va les citer dans un ordre allant du sommet vers le bas. N'est-ce pas? Quand on analyse les Écritures, on se rend compte qu'il y a une hiérarchie et il y a un domaine descendant ou un domaine montant. Et ici, dans le texte, c'est manifestement le sommet de la hiérarchie de ces êtres invisibles qui apparaît en premier, et puis on descend l'escalier de la hiérarchie. Là où, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, qui a été rédigé pratiquement en même temps, l'ordre est différent et partiellement inversé. C'est-à-dire qu'on va davantage, pour un certain nombre de raisons voulues par l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit pour les Éphésiens et pour les croyants d'Asie mineure, il part du plus bas et il a tendance à monter vers le plus haut. Là où, lorsqu'il s'adresse aux Colossiens, il vise tout de suite le plus haut en montrant que Christ règne sur cette échelle, mais en étant au-dessus du plus haut. Voyez la nuance même que le texte a voulu apporter. Alors ça, c'est un texte extraordinaire. En général, on passe dessus parce que ça nous barbe. Mais c'est un message dont nous avons terriblement besoin aujourd'hui. Surtout, plus on s'approche du retour de Christ et où l'ennemi se déchaîne, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles. Bon, eh bien, les visibles, ça laisse aussi sous-entendre la seigneurie et la souveraineté absolue de Jésus-Christ sur tous les personnages les plus hideux de l'histoire. Ça peut nous aider à, même dans nos moments de révolte et d'indignation, il y a peu de temps encore, quand je donnais un tel enseignement, j'évoquais l'ayatollah, n'est-ce pas? Bon, maintenant c'est fini. Mais il n'y a pas d'erreur de Dieu. L'ayatollah n'a pas été un personnage qui a échappé au contrôle de Dieu. Et ça, c'est bienfaisant de savoir que Christ tient tout cela entre ses mains et que Dieu est un Dieu parfaitement juste. Bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais dans le ciel, moi je pense que, à nos yeux, la justice parfaite de Dieu dans le jugement, à travers l'histoire, va éclater, va littéralement exploser. Et nous verrons que Dieu n'est pas un Dieu arbitraire, que Dieu n'est pas un de ces potentats qui juge n'importe comment, de manière partiale. Quand on lit l'Épître aux Romains, on s'en rend d'ailleurs compte, au travers du message de l'Épître aux Romains, Dieu est parfaitement juste, parce qu'il connaît toutes choses, il est Dieu, il connaît les motivations profondes, les secrets des cœurs, il vit en dehors du temps, il sait déjà ce que sera demain, n'est-ce pas? Et là, il faudrait parler de la préconnaissance de Dieu. Je crois que notre problème, vous savez, c'est que nous avons une vision tellement, souvent, légère de Dieu. Parce que nous ne prenons pas assez de temps pour contempler Dieu. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église, même dans les Écritures, c'était des hommes qui avaient une connaissance de Dieu, qui leur donnait une stabilité. Comment se fait-il que Daniel, jeune homme, qui avait largement moins de 20 ans, dans Daniel 1 et dans Daniel 2, et puis avoir une telle maturité et une telle stabilité, alors qu'il vivait dans cet empire babylonien et à Babylone, quand on sait ce qu'était Babylone, quand on sait ce que c'était, ce que ça devait représenter pour ce jeune homme et ses copains, et qu'il peut prendre position avec un tel courage, avec une telle paix. Mais on a la réponse au chapitre 2. lorsqu'il prie dans la réunion de prière du GBU, moi j'appelle ça le GBU de Babylone, ils étaient tous des étudiants à l'école nationale d'administration de Babylone. Il y a un thème fantastique à étudier. Ils ont un énorme problème. Ils discutent pas comme souvent on discute dans nos GBU. Hein. Ils font de l'étude biblique, ils font de la réunion de prière. Si c'est nécessaire, ils passent la nuit en prière. Dieu se révèle et puis Daniel loue le Seigneur au chapitre 2. Vous avez vu un peu la vision qu'il a de Dieu ? C'est fantastique. Un gars de moins de 20 ans, mais qui avait une vision d'un Dieu souverain. Extraordinaire. C'est bouleversant. Vous prendrez un Colossiens chapitre 2, 20 et suivant. C'est un régal. Nous ne pouvons pas le faire là, sinon nous n'en sortirions pas, parce qu'il y a des marées dans la Bible. Si on s'enfonce, on n'en sort plus, tellement on se plaît dedans. Voilà, alors, je voudrais prendre quand même au chapitre 2 les versets 9 et 10 qui vont dans le même sens. C'est aussi une des réponses de l'apôtre Paul. Car en lui, en Christ, nous avons commencé à développer ce texte, hein, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le Dieu absolu, venu en chair pour mourir sur la croix. Et l'éternité, il est dit corporellement, hein, corporellement, c'est-à-dire que durant l'éternité à venir tout entière, quand nous serons au ciel dans la présence de Dieu, nous reconnaîtrons en Jésus-Christ celui qui est mort pour nous sur la croix. C'est-à-dire que les marques, en quelque sorte, je dirais, de sa mort sur la croix, les mains percées, accompagneront le Christ dans l'éternité. Nous ne pourrons jamais oublier l'incarnation de Jésus-Christ. Tout sera fait pour, dans l'éternité tout entière, pour que nous nous souvenions que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et c'est pour cela que le grand thème de l'Apocalypse concernant Jésus-Christ, c'est le thème de l'agneau. 29 fois, Jésus-Christ nous est présenté dans sa gloire, comme bien sûr d'un côté le lion de la tribu de Judas, c'est-à-dire le Seigneur des Seigneurs, le souverain qui règne, mais nous ne pourrons jamais oublier sa mort sur la croix parce qu'il est l'agneau. L'agneau comme immolé. Ça, c'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Toute l'éternité, nous aurons cette pensée sous les yeux. C'est fantastique. Il est le Dieu absolu, venu en chair, pour mourir sur la croix. Alors, là aussi, j'aimerais préciser, je crois que c'est important, donc nous avons, en lui, habite de manière permanente, corporellement, toute la plénitude, tout le plérôme de la divinité. Divinité. L'apôtre Paul éprouvait tellement le besoin de préciser aux Colossiens que Jésus-Christ était Dieu parfaitement, qu'il a, en quelque sorte, créer un mot unique. Ce mot divinité qui est ici dans le grec ne se trouve que là dans tout le Nouveau Testament. Et avec une toute petite distinction d'un iota. D'un iota, vous savez qu'on dit, on utilise parfois l'expression d'un iota. Hein? Et en réalité, là, c'est pris au sens tout à fait littéral parce que on peut écrire divinité de cette manière, je l'écris en français. Voilà, c'est écrit en français, hein, vous voyez. Vous avez un iota. Et vous trouvez ce terme dans d'autres textes du Nouveau Testament. Et là, curieusement, l'apôtre Paul l'écrit sans le i. C'est-à-dire que vous avez le mot théotès, unique dans le Nouveau Testament. Unique. Au point que certains... Moi je suis de ceux-là, généralement, quand j'évoque ce terme, j'utilise une sorte de néologisme qui existe depuis pas mal de temps, au lieu de dire divinité, je dis déité. Déité. Pour bien faire la différence. Et cela sous-entend simplement une chose, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas divin, mais il est Dieu. Il n'est pas divin, mais il est Dieu. Il est d'essence divine, totalement divin, absolument divin. Christ est le seul Dieu complet, absolu, n'ayant besoin d'aucun complément. Il n'est pas un petit Dieu. En fait, on a l'impression que l'apôtre Paul a voulu souligner en utilisant toutes sortes de flashs, n'est-ce pas, la seule et unique et même vérité, Jésus-Christ est Dieu, un point c'est tout. Alors tout ce qu'il dit va dans le même sens, pour que dans l'esprit des Colossiens, il n'y ait pas de doute possible, et qu'il ne soit pas tenté un seul instant de succomber à ce langage empoisonné des faux docteurs qui essayent de rabaisser la personne de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, littéralement, vous êtes rempli en lui. Vous êtes rempli en lui, qui est donc le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef, supérieur à tous les êtres spirituels, étant leur souverain créateur. Le grand thème de l'Apocalypse. Vous avez une expression qui revient pratiquement près d'une dizaine de fois, qui sous-entend que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Il est le dominateur universel. Un texte extrêmement fort. Le texte qui dit dans Apocalypse, chapitre 17, verset 14, « Le Seigneur des seigneurs est le roi des rois. » Vous savez, dans les moments où ça va mal dans nos vies, souvenons-nous de la manière dont les hommes de Dieu ont prié dans l'Ancienne Alliance. Prenez la prière de Daniel, prenez la prière de Néhémie, la prière d'Esdras, la prière de Josaphat en difficulté, de tant d'autres personnages. Comment est-ce qu'ils commencent leur prière lorsqu'ils sont en situation difficile? Prenez David et d'autres dans les psaumes. Ils proclament ces dimensions-là au sujet de Dieu. Tu sais tout, Seigneur. Rien ne t'est caché. Tu vis dans la lumière parfaite. Rien ne t'échappe. Alors, puisqu'il en est ainsi, tu vois mon problème, tu vois ma situation. Il s'appuie, le levier de la prière, de la vie de prière des hommes de Dieu, c'est leur vision de Dieu. Vous savez, notre vision de Dieu a des implications énormes sur la manière dont nous gérons nos journées. Au point qu'on pourrait pratiquement dire, dis-moi quelle est ta vision de Dieu et de Jésus-Christ, et je te dirai comment tu te conduis dans l'histoire. Et bien sûr, c'est pour cela que l'ennemi attaque, pour défigurer, pour caricaturer, pour nous faire voir un petit Jésus diminué. Et c'est subtil. C'est subtil. Et vous le verrez même dans ce livre, il faudra que quelqu'un me passe le livre un instant, de Karyl Matrisiana, même dans ce livre, j'espère que c'est une faute de traduction, ça arrive parfois, mais même là, peut-être sans le vouloir, dans l'expression, on a diminué la personne de Jésus-Christ. Voyez, je ne pense pas que c'est la pensée de Karyl Matrisiana. Il y a eu un impair à quelque part, mais voyez, l'ennemi a réussi à glisser quelque chose, parce qu'il n'aime pas cet ouvrage. Et je pourrais vous donner tant d'autres exemples de ce genre. Alors, l'apôtre Paul sous-entend aussi que le croyant n'a donc pas à craindre les puissances spirituelles. Il n'a pas à avoir peur d'elles, à trembler devant elles. Il n'a pas à vivre dans une frayeur perpétuelle des esprits malins. Bien entendu, ni à chercher à entrer en relation avec eux, parce que cela, ça faisait partie aussi de ces systèmes. Je racontais à notre frère hier comment en Bretagne, lorsque nous étions en Bretagne, à quelques dizaines de kilomètres du lieu où nous étions, il y a toujours une chapelle qui pendant longtemps a été dédiée au diable. C'est-à-dire qu'on venait invoquer le diable. Dans le catholicisme breton, bon, ce n'était pas reconnu par le Vatican, mais hélas, on le faisait quand même. Et cette chapelle est d'ailleurs horrible dans sa présentation. Et on nous a expliqué là-bas, quand nous étions en Bretagne, que des catholiques venaient prier le diable dans cette chapelle pour être bien avec lui si jamais l'aboutissement du purgatoire n'était pas le paradis mais l'enfer. Vous voyez, comme quoi même dans notre monde, je dirais actuel, parce que ça peut-être que ça n'a plus cours officiellement en Bretagne, mais vous savez, officieusement, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses, y compris en France. Alors, vous voyez le caractère actuel d'un tel texte. Et puis, c'est bon pour le croyant, parce que, vous savez, il est si vite fait, d'une part, de voir le diable partout, on en parlera avec l'extrémisme doctrinal, là où d'autres ne le voient nulle part. Et il est si vite fait de vivre dans une crainte perpétuelle de la puissance des ténèbres. Nous devons respecter la puissance des ténèbres. La Bible le dit, hein, dans Jude notamment. C'est-à-dire que nous n'avons pas injurié la puissance des ténèbres. Non, nous n'avons pas l'injurié. Et ça ne vaut pas la peine de l'exciter. Mais nous n'avons pas, pour autant, à vivre dans la peur permanente de la puissance des ténèbres. Qui est parfois liée aussi à un enseignement déséquilibré. Nous devons, là, nous appuyer sur ce message extraordinaire de Colossiens chapitre 1 et 2. Tout en réalisant que l'ennemi attaque, en étant conscient de la nécessité de vigilance, il a été vaincu à la croix, il a perdu la guerre. C'est vrai qu'il l'a perdu. Mais comme dans toute guerre, même quand la trompette de l'armistice a sonné, et même parfois quand la paix est signée, vous avez encore des escarmouches. Hein. Et ça peut durer très longtemps. Bon, eh bien, il livre ses ultimes assauts, il met le paquet. On imagine ce qui se passe dans l'esprit de certains vis-à-vis du Liban, qui se disent, il faut qu'on attaque encore au maximum, parce qu'on sait que, peut-être, on le souhaiterait, hein, dans quelques temps, on ne pourra plus. Hein. Vous savez, c'est souvent comme ça. Hein, avant que une trêve soit proclamée, celui qui a le dessus, il essaye encore au maximum de faire du mal, de gagner du terrain. Hein. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il sait que bientôt ce sera fini. Mais nous bénissons Dieu. Nous sommes du bon côté. Cela fait du bien. Et nous ne sommes pas du côté de l'accusateur. Ah, un autre terme. Mystère, chapitre 1er, verset 26. Chapitre 1er, verset 25, 26, disons, et 27. C'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait serviteur, dans le sens d'une fonction, selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, pleinement. L'apôtre Paul était conscient qu'il ne devait pas apporter une moitié de message, mais un message vraiment complet. Hein. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, le souci permanent de l'apôtre Paul de ne rien cacher. Le mystère caché, il y a là le mot apocryphe en français, la crypte. Le mot crypte vient de là, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés, là encore, apocryphés, comme dans les cryptes, les trésors qui sont dans certaines cryptes. Hein. Mais alors là, quelles cryptes sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et quand on veut connaître tous les trésors, un des thèmes de l'épître aux Éphésiens, ce sont les richesses de Christ. Alors on peut les sortir les unes après les autres, parce que le terme richesse revient, il parcourt l'épître aux Éphésiens. C'est un très très beau thème. Et le mot revient encore au chapitre 4, verset 3. Alors, bien entendu, le mot mystère rappelle ce qu'on appelle les religions à mystère. Les religions à mystère avec leur lieu d'initiation, leur cérémonie rituelle, leur culte mystérieux, permettant d'entrer en relation avec ses médiateurs. Le but de tout ça, c'est de pouvoir flirter avec ses barreaux de l'échelle pour pouvoir, peu à peu, par des révélations, grimper plus haut, puisqu'on appelait notamment ces intermédiaires des révélateurs. Ils ont porté toutes sortes de noms. Dans le gnosticisme, on les appelait après les éons, enfin, toutes sortes de noms. Alors, ces intermédiaires demandaient dans ces cultes à mystère toutes sortes d'exigences. une vie sévère pour les uns, le jeûne, le renoncement au mariage. Ça explique un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Parce qu'il y avait toute une conception qui s'infiltrait dans l'Église de l'importance du célibat. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mariage s'inscrit à l'intérieur de la matière. On engendre des corps. Comprenez ? Donc, dans ces mouvements, on disait non à la procréation. Le corps est mauvais, l'âme est dans cette prison, donc tout ce qui est lié au corps, on l'évacue. D'où certaines formes d'ascétisme, le refus du mariage, la mise en évidence du célibat, et on a ici et là dans les Écritures des touches de l'apôtre Paul allant dans cette direction. Déjà chez les Corinthiens, il y avait une tendance de ce genre, et qui était liée à de mauvaises conceptions. Et c'est pour cela, d'ailleurs, ça explique certaines choses de 1 Corinthiens au chapitre 7, sur le mariage notamment. Alors ce qui est intéressant, je le souligne au passage, pour montrer combien les philosophies sont contradictoires, c'est que certaines tendances gnostiques disaient surtout non au célibat, non aux passions de la chair, non à la sexualité, là où d'autres gnostiques disaient exactement l'inverse. C'est-à-dire prôner carrément le désordre sexuel, la débauche, qui faisait même partie de certains des cultes, tout simplement parce qu'on disait, mais puisque la matière est mauvaise, on peut la mépriser, donc se conduire n'importe comment. Voyez comment, à partir même de la même idée fondamentale, on peut raisonner de manière différente. Et ça, ce sont des choses qu'on trouve aujourd'hui aussi. Et c'est ce qui rend parfois très difficile le discernement. Ce sont ces contradictions. Alors les philosophies en sont pleines, les sectes en sont pleines aussi. Le Nouvel Âge, comme vous le verrez aussi, lui-même en est plein. Bref, on pourrait ajouter les visions, les connaissances secrètes, les généalogies d'anges, le respect de certaines fêtes. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle l'alimentation holistique, qui tient compte de l'ensemble, l'homme s'intégrant dans un tout, faisant partie d'un tout. Donc, il faut une alimentation très, très particulière, etc. C'est très intéressant de voir les ressemblances au niveau de l'ascétisme. C'est incroyable dans ce domaine. Ça se résume à cette expression « religion de l'effort propre » pour grimper jusqu'à la fusion avec la lumière absolue. Et vous remarquez que ce schéma, c'est le schéma de tous les systèmes religieux, philosophiques, sectaires du monde. Tous les systèmes, toutes les grandes religions mondiales sont fondées sur ces principes. Vous mettez d'autres noms simplement à la place. Et c'est ce qui me conforte, parmi d'autres raisons très nombreuses, dans la direction que le christianisme biblique est la vérité et pas une vérité. Dans ce sens que il n'y a sur la terre entière qu'un seul schéma qui soit est complètement l'inverse de ce schéma, c'est le message de Dieu venant en Jésus-Christ, où les flèches sont complètement inversées et où la plus grande lumière est en haut, n'est-ce pas ? Où les plus grandes précisions nous sont données en ce qui concerne Dieu en Jésus-Christ. On inverse simplement. Et souvent, quand on explique le message de l'Évangile à un non-croyant qui cherche vraiment de tout son cœur, eh bien, on peut, à partir d'un schéma de ce genre, lui faire comprendre, de manière très simple, le message révolutionnaire de l'Évangile. Non pas l'effort propre pour grimper, mais le fait que Dieu soit venu en Jésus-Christ jusqu'à nous, pour nous rejoindre. Non pas une séparation et une quasi-haine vis-à-vis de tout ce qui est sur la terre, mais un amour extraordinaire, indissolublement lié à une justice et à une sainteté parfaite, qui vivent la plénitude de leur harmonie dans la mort de Jésus-Christ sur la croix. Quel message révolutionnaire! Et c'est ce que Paul va dire. C'est ce que Paul va dire. Christ est le seul vrai mystère. N'allez pas vers tous ces systèmes ésotériques, cachés, secrets, apocryphes. Christ est le seul vrai mystère. Pour connaître Dieu, il faut aller à Christ qui le révèle
et qui nous réconcilie avec lui. C'est la seule solution. Et en Christ, et là je reprends ce texte du verset 3, en Christ sont donc cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quelqu'un a commenté ce verset en disant que Jésus-Christ est le coffre-fort total et absolu de Dieu. Et en fait, ce que l'apôtre Paul fait dans Colossiens, c'est qu'il ouvre ce coffre-fort et il en sort, même dans les Colossiens, toutes les richesses possibles et imaginables. On en a déjà vu quelques-unes, pépite après pépite, et il les présente sous toutes les facettes. La seigneurie, la gloire de Jésus-Christ sur l'univers tout entier, sur sa création. Et puis à partir du verset 18 et dans les versets suivants, la gloire de Jésus-Christ en tant que sauveur et tête de ce corps qu'est l'Église. Et il présente chacune de ses richesses. Remarquez, non, je vais peut-être prendre une ou deux illustrations parce que c'est trop beau et trop important. J'aimerais vous citer un texte qui commente Colossiens 2, verset 3, et qui est un texte d'un père de l'Église qui a vécu au 4e siècle, Ambroise, et qui disait ceci à cette époque. « En Jésus, j'ai trouvé un ami qui, lorsque je vivais loin de lui, s'est approché de moi, m'a parlé et a gagné mon cœur. En lui, j'ai trouvé un sauveur pour le temps et l'éternité. » Après m'avoir montré mon cœur corrompu, il m'a révélé son grand amour et a effacé mes péchés au prix de son sang précieux. En Jésus, j'ai trouvé un guide fidèle qui, dans les moments de faiblesse, a empêché mon pied de glisser et m'a préservé des chutes. En Jésus, j'ai trouvé aussi un défenseur, car lorsque Satan m'a attaqué, il s'est toujours placé devant moi et a repoussé l'ennemi qui cherchait à me terrasser. Oui, en Jésus, j'ai tout trouvé. Ce que le monde n'a jamais pu me donner, et après quoi mon cœur a longtemps soupiré, je l'ai trouvé en lui. C'est pourquoi je suis pressé de dire à tous ceux qui soupirent après la paix, la joie et le repos, venez à Jésus. En lui sont cachés des trésors dont il fait part à tous ceux qui croient en lui et qui désirent le suivre et le servir. Il est encore le même aujourd'hui et offre librement la vie éternelle, la paix et le bonheur pour toujours. Fait du bien, hein? Au 4e siècle. On dit oui, amen, on va se retrouver là-haut avec des gens là qui ont vécu à cette époque et qui expérimentaient la même chose que nous. On pourrait prendre ce qu'a dit Pascal, j'ai tant et tant de textes, n'est-ce pas? Jésus-Christ est l'objet de tout, le centre où tout tend. Qui le connaît, connaît la raison de toute chose. Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques, de l'ordre des éléments. Ça, c'est la part des païens et des épicuriens. Donc ceux qui étaient tournés vers les plaisirs en quelque sorte. Il ne consiste pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence sur la vie, sur les biens des hommes, pour donner une heureuse suite d'années à ceux qui l'adorent. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qu'il possède. C'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie. Qui s'unit au fond de leur âme, qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance et d'amour, et qui les rend capables d'autres fins que lui-même. Incapables d'autres fins que lui-même. Tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ et qui s'arrêtent dans la nature ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse. Et on pourrait prendre tant d'autres textes au travers de l'histoire. Un dernier texte qui est tout récent de ces années. C'est un croyant qui n'a pas signé, qui avait été l'objet des soins attentifs du Sauveur dans son adversité, qui a écrit ceci. « Suis-je blessé ? Il est le baume. » Suis-je malade, il est le remède. Suis-je pauvre, il est la richesse. Suis-je affamé, il est le pain. Suis-je assoiffé, il est l'eau. Suis-je en dette, il est ma caution. Suis-je dans les ténèbres, il est mon soleil et mon bouclier. Dois-je affronter une tempête et de sombres nuages, il est une encre sûre et solide. Suis-je accusé, il plaide pour moi parce qu'il est mon avocat. Oui, dans tous mes besoins, le Christ est mon tout. C'est Colossiens. C'est la seule réponse à donner par le Seigneur dans nos vies lorsque nous avons tendance à vouloir diminuer la personne de Jésus-Christ. Une petite remarque encore, il y a dans cette échelle un élément qui est absent. C'est le Saint-Esprit. Ça vous choque peut-être que je dise cela,
Mais il se trouve que dans l'épître aux Colossiens, qui a donc été écrite presque dans le même jet de plume que l'épître aux Éphésiens, il n'y a qu'une seule mention du Saint-Esprit. Alors que dans l'épître aux Éphésiens, il y en a une dizaine. Et non seulement il y a une dizaine de mentions, mais des mentions essentielles, c'est-à-dire tout un enseignement très important pour la vie chrétienne sur le Saint-Esprit. Et on s'est posé la question, comment se fait-il que dans deux lettres écrites l'une après l'autre, qui ont quand même une quarantaine de points communs, il y ait une telle différence concernant le Saint-Esprit? Une seule mention, comme ça, au passage, dans Colossiens, alors qu'il y a un enseignement si généreux dans l'épître aux Éphésiens. Et on n'y répond pas de manière sûre et dogmatique, mais on s'est demandé si l'apôtre Paul n'avait pas voulu simplement être très prudent et ne pas mettre trop le Saint-Esprit en avant, de peur qu'on s'en empare encore pour le mettre dans la série d'intermédiaires. Parce que c'est ça le grand problème, n'est-ce pas? C'est que quand on a l'esprit qui dévie, on utilise tout. Donc il n'a pas voulu non plus brouiller les esprits et il a été très discret pour laisser son enseignement essentiel sur le Saint-Esprit dans cette épître aux Éphésiens qui, elle, allait aussi circuler dans l'ensemble des églises d'Asie mineure. Alors on pourrait longuement prendre d'autres termes encore, je prendrai simplement le terme parfait parce qu'il était aussi utilisé, notamment dans ces cultes à mystère. Vous avez remarqué qu'il revient, hein, tout homme devenu parfait. Chapitre 1, verset 28. Au chapitre 4, verset 12 aussi, vous avez le terme parfait. Et dans les cultes à mystère, par exemple, il était utilisé pour désigner l'initié par rapport au novice. Vous avez un peu comme dans les ordres monastiques du catholicisme, si vous voulez, vous avez toute la hiérarchie, vous l'avez d'ailleurs là, hein, les matériels, les psychiques, les spirituels. Il y a aussi, dans bien des systèmes et dans les déviations du christianisme, cette tendance à la hiérarchie, on en parlera dans nos études de mercredi. Alors vous aviez le novice et puis vous aviez l'initié, celui qui avait commencé à entrer dans certains secrets et qui était en train de grimper sur l'échelle. On ne savait pas très bien où il était, ça c'est le problème quand on est dedans. Hein. Mais enfin, il était en route. Alors, la réponse de Paul... est très belle. Elle dit, non, non, pas question d'accepter cette hiérarchie dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un parfait? Un parfait, c'est quelqu'un qui est pleinement développé, qui est mûr, qui est adulte. Il y a d'ailleurs dans le terme grec la notion d'atteindre un but, n'est-ce pas, de poursuivre un but et donc de grandir pour atteindre ce but et d'être arrivé à un certain but. L'apôtre Paul, bien avancé dans sa vie chrétienne, dira qu'il court toujours vers le but. Hein. On n'est jamais un adulte pleinement achevé. Et puis on peut retomber dans un infantilisme spirituel lorsqu'on devient rétrograde ou qu'on cesse de s'approcher du Seigneur, etc. N'est-ce pas? Mais il y a un stade de vie adulte. Et l'apôtre Paul va insister dans Colossiens 1, 28 sur le fait qu'il n'y a pas de discrimination dans l'Église. Il n'y a pas une petite élite à laquelle des biens suprêmes sont réservés, et puis à côté de ça, une espèce de petite masse prolétarienne dans l'Église, pour laquelle qui ne pourra jamais atteindre. Ça, c'était la conception de ces systèmes. Et c'est parfois la conception d'une certaine théologie qui a tendance à parler d'un christianisme d'élite, où il y a ceux qui peuvent atteindre les grands secrets et puis les autres, n'est-ce pas, et qui sont un petit peu le marais et qui ne comprendront pas grand-chose et qui vont être maintenus là dans le béaba de la vie chrétienne. Alors l'apôtre Paul, là, répond, c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Vous remarquez, hein? Pas d'élitisme dans l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'arroser chacun de la même manière. Il faut donner un enseignement que chacun puisse comprendre. Il faut aider de manière particulière ceux qui ont des dons pour pouvoir aller plus loin. Mais pas question de créer toute une hiérarchie et tout un élitisme qui divise l'Église de Jésus-Christ. Ceci est très important. Et en fait, la meilleure définition que l'apôtre Paul donne du parfait, c'est celui qui est déjà par la foi dans les lieux célestes, qui s'identifie à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, qui vit caché avec Christ en Dieu et qui grandit, dont la sanctification est liée à l'union intime avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a le début de Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous littéralement. Mobilisez toute votre mentalité, toute votre pensée, et de manière permanente, sous-entend le verbe en grec, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, de manière définitive, absolument, une fois pour toutes. Et votre vie est cryptée, cachée, cryptée là, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et sur cette base-là, à cause du fait que Jésus-Christ nous a entraînés dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, n'est-ce pas? À cause de cela, faites donc mourir littéralement, mettez en état de nécrose, la nécrose des tissus, vous savez ce que c'est que la nécrose, hein, des tissus, mettez en état de nécrose ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, etc., n'est-ce pas? Sur la base de ce qui vous a été acquis en Christ, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, sur cette base-là, vivez, pratiquez, que ça ne reste pas une théorie, mettez votre foi en action, et jour après jour, par l'esprit, nécrosez les actions du corps, et la meilleure manière de les nécroser, c'est de vivre ce revêtement permanent du caractère de Christ. Ça, c'est un autre thème, on ne peut pas le développer, mais c'est Colossiens chapitre 3 et 4, mais vous remarquez que la pratique, une saine pratique de la vie chrétienne repose sur une saine doctrine. Sur une saine doctrine. On ne peut pas commencer à lire l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 en disant « ça c'est pratique, ça m'intéresse ». Parce que tout le message des chapitres 3 et 4, relations dans la famille, éducation des enfants, relations dans le couple, relations entre ouvriers et patrons, tout ce qui est là, n'est-ce pas, si pratique, est lié à la doctrine. Et j'en viens donc rapidement à quelques observations pratiques pour que nous n'y revenions pas. Premièrement, donc observation de conclusion, observation pratique. Première observation, la déviation est subtile. La déviation est subtile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne se présente pas en rival du christianisme, mais comme un complément. Comme une meilleure façon d'interpréter et de comprendre l'Évangile. Et c'est ça ce qui est gênant. Quand on nous dit de manière claire, on ne veut pas de votre Christ, et pour nous-mêmes, quitte à dire même il n'existe pas, bon c'est clair. Mais là où on dit oui, oui, mais tout à fait d'accord, on le prend. N'ayez pas peur, on ne le rejette pas. Eh bien, quand on n'est pas solidement fondé, on se pose des questions. Et j'ai noté d'ailleurs que la tactique du diable pour l'Église, c'est de toujours présenter les déviations, dans les déviations Christ, d'abord comme un complément, donc à ne pas refuser, en attendant de pouvoir supplanter Christ. Ça commence par là. Et puis ensuite, il arrive un moment où en allant plus loin, on le met de côté. Et c'est exactement ce qui se passe dans la pensée du Nouvel Âge. Pour le moment, dans le Nouvel Âge, on veut bien encore, dans certaines tendances du Nouvel Âge, considérer Christ comme un maître parmi d'autres Christ. Et bien des gourous mettent Christ comme le gourou qui s'appelait Gandhi, qui n'était rien d'autre qu'un gourou, et qu'on a idéalisé à outrance, n'est-ce pas? Même si dans certains domaines il a fait preuve de courage, etc., etc., mais il y a aussi toute une désinformation au sujet de Gandhi, qui n'était peut-être pas dans certains domaines aussi pacifiste qu'on peut le penser. Mais là, vous le verrez dans les cassettes, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors, Gandhi aussi, hein, grande admiration pour Jésus-Christ. Et c'est ce qui a tenté bien des chrétiens de donner leur caution à Gandhi. C'est vrai que Martin Luther King avait une grande admiration pour Gandhi, mais enfin, il est allé quand même, lui, beaucoup plus loin. Mais ensuite, on voit déjà se profiler, j'ai lu un des ouvrages de base du Nouvel Âge, de Marilyn Ferguson, « Les enfants du Verseau », qui est vraiment un des catéchismes essentiels du Nouvel Âge, c'est une Américaine, et manifestement, on attend un autre Messie. Hein. Et ce Jésus, le jour où on pourra, comme on dit, lui couper la tête, on le fera. Mais il faut pouvoir, la grande séduction, c'est de pouvoir attirer l'Église. Hein? L'Église. Vous vous souvenez de Matthieu 24 ? S'il pouvait séduire les élus pour les perdre, alors c'est pour cela que nous devons être vigilants. Deuxième remarque, un certain nombre de thèmes, vous l'avez remarqué, et c'est pour cela que nous avons étudié Colossiens 1 et 2 de cette manière, sous cette approche, un certain nombre de thèmes et de mots de vocabulaire sont communs. Vous avez remarqué ? Hein, on a pris des mots du vocabulaire des faux docteurs et on a remarqué que l'apôtre Paul prend le même vocabulaire, mais lui donne un autre contenu. C'est très important ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire qu'un langage évangélique n'est pas une garantie de vérité. Un langage évangélique n'est pas une garantie de vérité. Je vais vous expliquer ceci. J'ai travaillé dans l'aumônerie militaire en Allemagne fédérale et j'ai emmené un groupe de militaires à Berlin pour un synode, une grande rencontre. Il y avait donc toutes sortes d'appelés du contingent, plus ou moins au courant de la Bible. Et nous avons assisté à tout un rapport sur la grande rencontre œcuménique d'Uppsala à l'époque qui était à la mode. Et il y avait un des participants qui faisait une conférence, il y avait des débats, etc. Et dans ces débats, il était question d'évangélisation, il était question de foi, il était question de salut. Et quand je me suis retrouvé dans la chambre avec ces appelés pour un peu discuter avec eux de ces conférences, ils m'ont dit « Mais c'était fantastique ce gars-là, théologien évangélique !» Et j'ai dû leur dire « Écoutez, détrompez-vous. Je vais maintenant, pour vous, reprendre le vocabulaire qu'a utilisé ce théologien qui est allé à cette grande rencontre œcuménique. Et simplement, je vais vous dire ce qu'il a voulu dire, ce qui se cachait derrière les mots qu'il a employés. Il a parlé de mission. Vous avez une définition juste de la mission parce que nous en avons parlé ensemble. Lui, la mission, c'est la libération des opprimés dans les pays d'Afrique du Sud, y compris si c'est nécessaire, au moyen des armes. Ah, c'est pas possible. Puis j'ai pris un certain nombre de mots et chaque fois j'ai donné la définition de ces mots qui sont dans la Bible. Mais la définition de cette théologie-là, il n'en revenait pas, mais ça a été une leçon qui a porté du fruit. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Récemment, je donnais une série de conférences à Lyon et un écrivain est venu me voir, qui avait d'ailleurs été, qui était un ancien séminariste, qui avait écrit, qui écrivait d'ailleurs des ouvrages dans le domaine spirituel, et qui m'a remercié pour la conférence. Puis on commence à discuter, et on parle de Jésus-Christ. Et très rapidement, je lui ai posé simplement cette question, mais vous me parlez de Jésus-Christ, c'était un ancien jésuite. Vous me parlez de Jésus-Christ, mais j'aimerais simplement vous poser une question. De quel Jésus-Christ êtes-vous en train de me parler ? Il m'a regardé. Il m'a dit, mais c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et donc tout notre entretien a été pour voir la différence entre le Christ de sa conception et le Christ de la Bible. Et nous nous sommes rendus compte dans l'entretien que plus nous avancions, plus son Christ à lui n'était pas le Christ de la Bible. Vous comprenez ? Mais au départ, ça semblait formidable. Ce qui m'amène à dire que la Bible, c'est vrai, est inspirée non pas seulement dans ses idées, elle est inspirée verbalement, dans ses termes, bien sûr, dans le texte original, qui généralement est bien rendu, vu la difficulté parfois de la tâche à cause de la richesse du langage, mais qui est bien rendu, quelles que soient les versions que nous avons, entre les mains, et que donc nous n'avons pas le droit de nous appuyer simplement sur des idées, ou simplement d'accepter des mots comme ça, sans chercher à savoir, mais il importe que parfois, nous essayons de savoir ce qui se cache derrière les mots qui sont prononcés. Et que nous sachions dire à ceux qui nous entourent et qui donnent certains messages, mais qu'est-ce que tu entends par là? N'est-ce pas, il ne suffit pas qu'un mot soit dans la Bible pour qu'il soit le sésame ouvre-toi qui nous permette de dire tu es mon frère. Et c'est pourquoi, j'insiste, je termine, là je vois que là, ça tourne, nous n'avons pas le droit de coller n'importe quelle définition sur les mots de la Bible. Nous n'avons pas le droit. On est souvent plus rigoureux quand on est mécanicien dans un garage et qu'on a besoin d'un instrument ou quand on est chirurgien et qu'on a besoin d'un instrument pour aller farfouiller dans le ventre de quelqu'un, n'est-ce pas? Si on vous demande quel instrument, si l'infirmière assistante donne un instrument tout à fait différent, ça peut être la mort du malade. Vous comprenez? Or, dans le domaine spirituel, on pense que, Jésus-Christ, il est le Seigneur, et on pense qu'avec le petit lait, on peut ensuite utiliser la Bible n'importe comment, dire n'importe quoi. C'est grave. Je ne dis pas que nous ayons besoin tous d'être des théologiens. Et c'est vrai que Dieu nous exauce, bien que nos prières soient parfois rudement tordues, Mais nous n'avons pas le droit de nous complaire dans la médiocrité. Que nous ayons le mauvais langage dans les premiers temps de notre vie chrétienne, c'est sûr. Mais c'est bon que plus nous avancions, nous rectifions notre langage, nos conceptions, au fur et à mesure que nous comprenons mieux la parole de Dieu. La justification, c'est pas n'importe quoi. Parfois, on a utilisé le terme justification en lui donnant des définitions qui sont fausses. Alors, il importe, justement, là encore une fois, de passer du temps dans l'étude des Écritures, d'essayer de lire de bons commentaires, d'être bien aidé, et pas toujours des petites biographies, parfois à l'eau de rose, ou des petites expériences, n'est-ce pas? On ne peut pas nourrir sa vie uniquement de l'expérience des autres. C'est bon, les biographies. Mais il y en a qui prennent ça comme on va chercher une glace au congélateur, et puis ça s'arrête là. Il faut étudier la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a là toute l'importance de l'église locale, d'un bon enseignement. On essaye de bien expliquer, sans être compliqué, mais avec suffisamment de précision. Il existe, j'ai noté, dans les milieux évangéliques, un flou de plus en plus artistique parce que nous faisons l'économie de la doctrine au profit de l'expérience personnelle. Là où d'autres ont tendance à donner une telle place à la doctrine qu'ils évacuent alors l'expérience personnelle et qu'on étudie la Bible comme on dissèque un cadavre dans un laboratoire de pathologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie ensuite d'étudier la Bible tout seul. Et là, vous voyez, on se déséquilibre. Nous avons besoin de la doctrine et de l'expérience. Si j'étais devant vous dans un squelette, sans chair, en train de vous causer, il y en a qui seraient déjà à 100 km d'ici, Je me rappelle d'Anatole dans nos cours de sciences naturelles quand on étudiait le squelette. Ah, la première fois qu'on nous amenait Anatole dans la classe de sciences, il y avait des gens qui... C'est sûr que c'est pas très intéressant. C'est plutôt froid et morbide. Mais imaginez maintenant que je sois devant vous une espèce de tas de chair molle et flasque. Grenouille, invertébrée. C'est pas intéressant non plus. C'est beau cette alliance en nous entre la charpente, le squelette et tout ce qu'il couvre et qui fait la différence de notre personnalité, puis la vie qui anime tout cela. La vie chrétienne, c'est ça. C'est l'association entre le squelette de la doctrine et toute la chair, les muscles, les articulations, et puis la vie qui est nécessaire. Parce qu'on peut être un squelette recouvert de chair, mais le Saint-Esprit n'a pas encore soufflé. Vous connaissez cette vision d'Ézéchiel. Il faut aller jusqu'au bout. La nécessité d'équilibre. Je crois que je m'arrête là. Il y a tant de choses. Je dirai peut-être deux mots demain matin. Une ou deux réflexions encore. Nous nous arrêtons. Disons donc Colossiens 2, 16, 17. Colossiens 2, 16, 17. Et nous sauterons au verset 20 à 23. Colossiens 2, 16, 17 et 20 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, est en Christ. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence ou une réputation de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, où cela est sans valeur réelle pour mater l'insolence de la chair. On peut le rendre des deux manières. D'ailleurs, la version de Jérusalem l'a rendu de cette seconde manière, pour mater l'insolence de la chair. C'est très bien rendu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 18 à 24, un passage qui a été partiellement lu à l'occasion du culte de dimanche matin, Hébreux 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté, tout tremblant. » Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Un texte extraordinaire sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et chaque fois que je relis ce texte maintenant, depuis février 1985, c'est un texte qui a pris un relief, et ça va de soi puisqu'il est question de montagne, tout à fait particulier, tout simplement parce que en 1985, Tina et moi, nous avons eu le privilège de faire ensemble un voyage que j'avais fait tout seul en 1970 en Israël. Nous avons pu aussi le vivre ensemble et en Égypte, et nous étions une équipe dans laquelle il y avait d'ailleurs d'autres amis comme Alain Choiquier, son épouse, Ralph Chalice et sa femme. Et dans notre programme, il y avait notamment l'ascension de ce fameux Sinaï. Et nous avons donc entamé de nuit la montée vers le Sinaï, accompagné d'un de ses guides du pays. Nous étions arrivés par un temps relativement beau dans ce massif qui est extraordinaire à voir. Et en cours de route, nous avons été pris dans une de ces tempêtes de neige, comme il y en a très très rarement d'ailleurs là-bas, accompagné de tonnerres, des éclairs, d'un terrible blizzard. Et nous étions aux deux tiers de l'escalade, de la montée. C'était impressionnant. Ça roulait, vous savez, comme ça peut rouler en montagne, et puis ce blizzard terrible, et alors la neige qui tombait à une allure, au point que il est arrivé un moment où le bédouin, un homme habitué au désert, a dit, écoutez, on ne peut pas continuer, ça devient dangereux. Et nous avons donc dû retourner. Mais j'ai béni Dieu avec d'autres pour cette expérience. Cette démonstration du déchaînement des éléments naturels qui pouvait permettre de saisir d'une toute petite manière ce qui a pu se passer au Sinaï lorsque Moïse était là-haut et où véritablement les éléments se sont déchaînés de manière incroyable. Hein. Il y a des textes aussi dans l'Ancien Testament qui le disent si fort. On peut imaginer aussi ce que cela a voulu dire pour le peuple d'Israël qui faisait vraiment connaissance avec la gloire de Dieu, mais dans son côté qui peut être terrifiant. Terrifiant. Alors il y a ce contraste ensuite avec la grâce. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. J'aurais aimé, sans entamer trop sur le temps que nous allons consacrer à un thème très important, le légalisme et l'ascétisme, simplement j'aurais aimé revenir brièvement sur la conclusion d'hier pour ne pas l'amputer d'une ou deux remarques déjà faites, mais qui